Vacarme.
Là, on va rentrer dans la chapelle. Mais à l'intérieur de la chapelle, il y a un endroit réservé aux pèlerins. Et puis, il y a des grilles qui ferment la zone qu'on appelle le Saint des Saints. Chez les chrétiens, c'est-à-dire le lieu le plus hautement sacré, géobiologiquement, où il y a le plus haut taux vibratoire et en effet, où se trouve l'émission de cette lumière, c'est-à-dire le vortex.
Vacarme. La Suisse romande est-elle une terre sacrée ? Marc Hughes, Véronique Marty.
Bonjour à tous. Troisième volet consacré cette semaine aux lieux dits sacrés de Suisse romande et à ceux qui les vénèrent. Ils sont de plus en plus nombreux à être attirés par les concepts de lieux vibratoires, de forêts enchantées, de croisements telluriques ou encore de roches miraculeuses. Mais y a-t-il des endroits plus chargés que d'autres ? Et de quoi sont-ils chargés ? Y a-t-il des lieux dont on pourrait mesurer le potentiel d'attraction ? Il y a en tout cas des lieux qui mettent tout le monde d'accord, puisque même difficiles d'accès, ils sont aussi bien fréquentés par des pèlerins que des païens, des chrétiens que des hindous, des prêtres que des radiesthésistes. C'est le cas de l'ermitage de Notre-Dame de Longeborgne, en Valais, à la sortie du Val d'Airain. 50 000 visiteurs par année montent à pied le sentier qui mène à deux chapelles creusées dans la montagne. Ce jour-là, nous sommes en compagnie de Damien Evéco, sourcier et adepte de la géobiologie, décrite comme l'étude des ondes de la Terre, dites ondes telluriques. Voici Une église dans une grotte, un reportage de Valérie Kernen, réalisé par Bruno Seriba.
Infotrafic RTS.
Soyez prudents, si vous circulez sur l'axe Fribourg-Vevey, on signale la présence d'un objet sur la chaussée entre Rossan et Bulle à la hauteur de Ria.
Bonjour monsieur. On va céder la place à un pèlerin.
Qui se signe. Et qui embrasse la grille.
Là, c'est le premier marcheur que l'on voit qui s'arrête vraiment devant une des stations.
Qui est très pratiquant, oui, je le vois. Il a fait plusieurs fois le signe de croix et il s'est pratiquement agenouillé devant. Donc oui, je pense que c'est quelqu'un qui est en effet un pèlerin pratiquant et croyant.
Donc ici, en tant que géobiologue, Damien Evéco, on est devant la quatrième station des pèlerins, donc devant une icône de Jésus qui rencontre sa mère en portant la croix. Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour vous ici, à cet endroit ?
Donc devant chacune des 14 stations, nous avons une vibration qui provient de la Terre, qui est particulière. Donc on va l'appeler avec des termes qui sont propres aux géobiologues. Ici, on a un croisement sans ferreur de tête de sélénium. Ça veut dire que c'est comme ces croisements Hartmann que les gens comprennent. C'est ce qui les empêche de dormir ou de travailler convenablement sur une place de travail.
Les croisements telluriques.
C'est des croisements telluriques. Alors, le croisement Hartmann est un croisement qu'on ne supporte pas. Il n'est pas forcément néfaste, c'est qu'on ne le supporte pas à long terme. Celui-ci, il est extrêmement faste. Le croisement qu'on a là, donc de ces rayonnements qui proviennent du noyau de la Terre, sont positifs pour l'être humain.
Et donc le fait que les stations soient à chaque fois basées sur des croisements d'énergie positive, selon la vision des géobiologues, c'est un hasard ?
Ah non, je ne suppose pas, vu que ce hasard on le retrouve dans les cathédrales. On a également le chemin dans toute église, de 14 stations dans une église catholique, dans une cathédrale catholique. On retrouve ce chemin, que je préfère appeler chemin des initiés, comme on l'appelait semble-t-il autrefois, où nous avons 14 stations, où le pèlerin s'arrêtait. Donc on lui expliquait, c'était la manière simple de faire comprendre aux gens comment profiter des énergies de ce lieu. C'est de leur dire, vous avanciez jusqu'à la troisième station, et puis là vous chantiez deux Paternoster, trois Ave Maria. On aurait pu chanter l'hymne à la joie ou une chanson de Lady Gaga, c'était pareil. C'était le temps qu'il fallait pour que l'individu placé sur cette station subisse les influences telluriques du lieu. Elles ne sont pas toutes fastes. La station, par exemple, où le Christ tombe, la première fois, entre autres...
En portant sa croix.
Alors là, on aura en effet des croisements Hartmann, ce qui sont peu agréables et qu'on ne supporte pas. ceux où les chats se mettent volontairement dessus. On en parle parfois.
Donc les bâtisseurs des églises et des chemins de croix étaient, selon vous, initiés aux énergies, ressentaient les énergies pour placer leurs églises et les lieux de prière dans des endroits particuliers, et parlons énergétiquement.
Oh, il faut différencier les bâtisseurs qui, eux, bâtissaient. Il y avait les bâtisseurs de la pierre, du bois, du fer et du verre, qui, eux, étaient initiés dans l'art du travail. Ils travaillaient d'une manière, en effet, proche de l'énergie, parce que c'était des objets vivants qu'ils créaient. Une pierre était peut-être un bloc, mais c'était comme une statue. C'était un œuvre. Et puis, il y avait les commanditaires, qui, eux, avaient soit l'argent, soit la connaissance, et puis faisaient souvent appel à quelqu'un qui savait dire « nous le construirons de telle manière à tel endroit ». Dans le porche de l'ermitage.
Ermitage Notre-Dame de Langeborgne, au-dessus de Sion.
Donc comme vous le voyez, il y a des messes qui sont célébrées très régulièrement ici. Et c'est vrai que c'est un lieu qui parle à beaucoup de gens.
Donc ici, il y a une sorte de porche avec la Vierge Marie et le petit Jésus.
Et l'enfant Jésus.
Exactement. Et on voit la chapelle qui est vraiment à flanc de coteau d'une énorme falaise. Je ne sais pas à quelle hauteur est là.
À l'origine, c'était une grotte troglodyte. Donc c'est un lieu qui est en effet chargé, je vais dire géobiologiquement, d'une énergie très maternelle, très féminin. Et en effet, aujourd'hui, certaines femmes qui n'arrivent pas à voir, à enfanter, viennent en ce lieu. Et je connais plusieurs lieux similaires à celui-là où, en effet, pour vous parler d'un exemple de très proche de moi, j'ai une personne qui n'arrivait pas à avoir d'enfant depuis longtemps avec son époux en visitant une chapelle semblable à l'ermitage de Langeborgne qui était déjà dite préalablement pour la fécondité. Elle est en effet tombée enceinte 2 semaines après. C'est ce qui est arrivé, semble-t-il, à Langeborgne parfois.
On entre.
On entre.
On est passé le porche, donc là on est dans l'enceinte, mais encore à ciel ouvert. Il y a une petite maison étroite juste à flanc de la falaise.
Oui, alors la chapelle est encastrée dans la falaise, la petite maison que vous voyez là, et c'est un réfectoire. Donc ils viennent de rénover tout le lieu.
Donc c'est sublime. Donc effectivement, la chapelle est à l'intérieur et sous la falaise. Beaucoup de petites bougies déjà allumées aujourd'hui. Il n'est pas encore midi. Et ensuite, on surplombe toute cette vallée étroite avec une rivière, la Borne, qui coule tout au fond. C'est un endroit très calme et très paisible. Les bougies ont été allumées par les pèlerins. Ça, c'est pas l'ermite qui s'en occupe.
Alors, il ne s'appelle pas ermite lui-même, c'est comme il vous l'expliquera. Donc, il y a eu un ermite préalablement avant lui-même, qui était vraiment un ermite qui vivait dans une grotte, un petit peu plus haut, ici, qui est décédé quand même, entre autres, de rhumatisme. Ça ne devait pas être facile de vivre l'hiver là-dedans. Donc ici, ce sont les pèlerins qui allument ces bougies. C'est un lieu très fréquenté, comme vous le voyez, par de nombreux pèlerins.
On a déjà rencontré une dizaine de personnes.
Et puis la bougie, c'est vrai que c'est l'offrande, le remerciement ou la façon de faire une prière qui soit continuelle tant que la bougie est allumée.
Je sais pas, il y a une sonnette sans nom. Ça fait drôle de sonner dans ce lieu-là, après avoir marché pour arriver à l'église. Père François Hulot. Bonjour.
Alors, rentrez.
Ok, ça fait un moment qu'on est dehors.
Ah oui.
Et vous vivez dans les rochers? Votre maison est aussi sous la falaise?
Accroché au rocher, on n'est pas dessous, voyez. Et c'est tout nouveau, nous avons un peu rogné le rocher pour qu'il prenne une certaine dimension, mais ce n'est que la partie très extérieure de ce lieu qui est avant tout attirant par les deux chapelles qui sont dans le rocher.
Et c'est dans une grotte.
Oui, tout est dans l'ancien ermitage est tout à fait dans le rocher. Maintenant, au cours des siècles, on a un peu taillé, corrigé, essayé d'arranger les choses. On voit plus bien tout ce qui était naturel et ce qui est maintenant, qui a été un peu creusée. Et alors, il y a deux chapelles qui ont déjà été construites au XVIe siècle par un franciscain qui est venu avec quelques compagnons ici pour mener une vie conventuelle, alors communautaire, donc religieuse, suivant la règle de saint François. Mais cette première équipe est décédée dans les 20 années qui ont suivi. Pourquoi ? Parce que on dit d'une épidémie, mais c'est l'humidité des lieux. Dans les grottes, il fait très très humide. Il se chauffait à bois, il n'y a pas beaucoup de bois ici autour. Donc cette première équipe est décédée dans les 20 années qui ont suivi. Mais comme ils avaient fait les chapelles, les gens ont continué de venir. Et pour moi, c'est l'origine du pèlerinage. Comme partout en Valais où il y a des chapelles, on voit les gens très attachés, monter, prier, entretenir ces chapelles. Alors pour ici, il y a eu des ermites depuis la moitié du XVIIe siècle, donc après cette première équipe dont j'ai parlé, et qui ont entretenu le lieu et qui ont été protégés par certaines familles influentes de Sion, et à tel point qu'à un moment donné, à la fin du XVIIe siècle, la bourgeoisie de Sion a obtenu un décret de protectorat, de patronat de ce lieu.
Est-ce que vous vous considérez, vous, frère François Huot, comme un ermite moderne ?
Oh là là, je dirais de mon temps, oui, mais pas ermite tout à fait, puisque je vois trop de monde et que je suis, attention, c'est ça qui est important, je suis à disposition des pèlerins, du pèlerinage. Mais nous avons eu dans ma communauté un ermite entre 1945 et 65.
Nos communautés de bénédictins.
Oui, bénédictins. Et alors, lui est venu habiter une autre grotte qui n'avait jusqu'alors pas été habitée. Une grande grotte qui est encore plus haut dessus. Il a laissé beaucoup de traces, je crois, très favorables dans l'ensemble, que les gens l'ont beaucoup apprécié, on se confiait à lui. Il disait la messe en semaine dans cette grotte, et tous les matins, à 6 heures du matin, il y avait des gens qui montaient pour assister à sa messe.
Ce lieu ici, Damien Evéco, a été classifié par Blanche Mertz, qui est une géobiologue aujourd'hui décédée, qui était ingénieure et qui a créé l'Institut de recherche en géobiologie.
À Chardonne, exactement.
À Chardonne. Et elle avait estimé ce lieu comme étant un des lieux les plus puissants de Suisse, voire le plus puissant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces conclusions ? C'est un lieu particulier au niveau suisse ?
Oui, bien sûr, c'est un lieu particulier au niveau de la vallée du Rhône, sans doute au niveau suisse. Il y a beaucoup de lieux, hein, quand même plus énergétiques que celui-ci. Maintenant, Blanche Mertz fait beaucoup avancer la géobiologie. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, il y a eu énormément de découvertes qui ont été faites.
Hein. Donc, Blanche Mertz avait calculé le taux d'énergie à 45 000 bovis.
Oui.
Qu'est-ce que c'est bovis et comment est-ce que ça fonctionne ? Comment est-ce qu'on calcule le lieu ? Est-ce que vous pouvez me montrer
oui,
maintenant ?
Oui, à petite échelle.
Vous aviez fait les mêmes calculs que Blanche Mertz.
Oui, j'arrive au même résultat.
D'accord. Donc ici, vous avez sorti une petite feuille, échelle.
Ça permet de quantifier ce taux, cette quantité de lumière qui est dans un lieu.
Qu'un bovis, c'est quoi comme unité ?
Alors c'est Alfred Bovis. C'est un homme qui a commencé en radiesthésie à mesurer au pendule différents aliments, différentes personnes. Différentes maladies, la tuberculose, le cancer, la zone de cancer d'une personne, et à définir qu'en effet, une personne qui avait la tuberculose vibrait moins qu'une qui ne l'avait pas, qu'une personne qui avait un cancer déclaré, la zone cancéreuse vibrait moins que le reste du corps, et qu'un produit fait industriellement, aujourd'hui a moins de vibrations qu'un produit fait artisanalement. Donc voilà ce que Alfred Bovis a déclenché. C'est la capacité de mesurer, d'avoir une échelle qui permet d'échanger entre nous, comme le système métrique. Et là, c'est pour échanger entre nous.
Et l'instrument, c'est le pendule.
C'est très bêtement le pendule, et c'est toujours le pendule, c'est un outil que, comme vous le voyez, je n'ai pas pris, parce que le pendule, c'est soi-même qu'ils faisons inconsciemment bouger. Ça veut dire que vous me disiez ici, ce lieu respire le silence, ben vous sentez peut-être une sérénité par ce silence que vous percevez. On ne l'entend pas, on ne le sent pas, mais on le perçoit. Donc votre corps a ressenti qu'ici, en fait, le taux vibratoire, si on veut parler comme géobiologue, ou la quantité de lumière, comme je le dis, est supérieure que ben il y a quelques pas préalablement. Alors, le corps ressent si un lieu vibre bien ou pas, tout le temps. Donc le pendule, c'est pour cela que je ne l'utilise pas, parce que le corps est le meilleur outil, quelque part.
Donc là, vous, pour pouvoir définir le taux vibratoire, vous le ressentez dans votre corps?
Je le ressens dans le corps. Maintenant, c'est vrai que le ressenti n'est pas précis. Alors, quand on échange entre géobiologues, on prend en effet un pendule, on le place sur une échelle similaire à celle-ci, et puis on arrive à un résultat qui est, en effet, généralement très proche les uns des autres.
Ok, d'accord. Donc ici, on est sur le point névralgique où il y a un point central d'où cette énergie est diffusée.
Alors oui, elle est diffusée par ce qu'on appelle être un vortex. Alors le vortex est un nom emprunté à la physique. Hein. Il faut imaginer une tornade, hein, mais au lieu que ce soit l'air, l'oxygène qui est concentré dans un tourbillon, c'est la lumière qui est concentrée dans un tourbillon qui va monter très haut dans le ciel, en fait, jusqu'à la magnétosphère et aller très profondément dans les entrailles de la Terre. Donc c'est une concentration d'énergie qui tourbillonne. Et cette concentration d'énergie qu'on a vulgarisé en appelant vortex, se trouve dans le sanctuaire. Ça veut dire que là, on va rentrer dans la chapelle. Mais à l'intérieur de la chapelle, il y a un endroit réservé aux pèlerins. Et puis, il y a des grilles qui ferment la zone qu'on appelle le Saint des Saints, chez les chrétiens, c'est-à-dire le lieu le plus hautement sacré, géobiologiquement, où il y a le plus haut taux vibratoire, et en effet, où se trouve l'émission de cette lumière, c'est-à-dire le vortex.
On va ouvrir la petite porte en bois de la chapelle. Cette petite église a les murs couverts de tableaux très très sombres et très noirs, assez oppressants.
Alors, ils sont sombres parce qu'en effet, le lieu est déjà un peu lumière, mais ces tableaux sont en effet dans l'idée de l'endroit, c'est-à-dire qu'ils retransmettent peu de lumière dans l'idée de la grotte.
Là, on est vraiment sous la montagne.
Ça a été creusé.
Ça a été creusé parce que les plafonds sont en forme de voûte, mais pas du tout lisses comme dans d'autres églises. Et c'est à même la roche.
C'est à même la roche, ça a été creusé dans la roche.
C'est incroyable. Donc le mur qui sépare la chapelle en deux est un mur qui était déjà là. C'est pas quelque chose de fabriqué par l'homme.
Non, c'est carrément le rocher.
Donc c'était une grotte déjà en deux pièces, on peut dire comme ça.
Exactement. Donc vous voyez où vous êtes arrêté. Le pavement est marqué par une croix d'un carrelage qui est noir à la place du carrelage blanc qui est à côté. Ce carrelage noir forme une croix. C'est un emplacement où vous êtes arrêté inconsciemment en faisant un tour sur vous-même. Donc sur cette croix, on ressent en effet une certaine sensation de tourbillonnante parce que la source de lumière que je vous comparais à une tornade émet certains rayonnements, certains bras, on appelle ça, ou une spirale qui passe par cet endroit marqué par une croix.
Mais comment est-ce qu'on explique que des vortex se retrouvent à l'intérieur de chapelles et de lieux saints catholiques?
On l'explique comme les gens ont ressenti que dans certains lieux, ils étaient empreints d'une paix. Vous savez, ça m'a toujours fait rire de voir que dans nos lieux catholiques, ou les cathédrales qu'on visite très touristiquement, on a partout là le dessin d'un moine qui fait le symbole de pchut, de silence.
Ce qu'on devrait faire ici dans la chapelle au lieu de parler. Hein.
Nous sommes seuls, heureusement. Alors que dans ces lieux, je veux dire, si on les écoute dans des hauts lieux sacrés, on est empreint de faire silence. On n'a pas besoin qu'on nous l'explique. Donc c'est ça, quand on ressent le sacré dans lui, c'est-à-dire cette lumière, on est automatiquement pris de faire silence. Et donc je pense que tout le monde, à l'époque qu'on vivait plus proche de la nature, était capable de ressentir cela également. Et donc on a fait dans ces lieux où on se sentait bien, soit des dolmens, soit des menhirs. Puis quand l'architecture moderne, enfin romaine, est arrivée, on en a fait, de ces dolmens, on les a démolis, puis on a fait des villas romaines, puis on les a démolis, puis on a fait des bains romains, puis on les a démolis, puis on a fait des chapelles ou des cathédrales.
Ressentez ce lieu comme un lieu sacré, comme un lieu particulier?
Oh, pour moi, c'est tout l'Ermitage et tout ce qui se passe ici. Ce n'est pas spécialement ici ou derrière l'hôtel.
Ici, la chapelle, oui.
Oui. Moi, je ne crois pas du tout quand on me dit que derrière l'hôtel, il y a beaucoup plus d'ondes positives. C'est probablement très subjectif. Et voyez, la porte s'ouvre, il y a toujours des gens qui viennent comme ça.
Oui, un monsieur qui s'agenouille.
Tout à l'heure, peut-être ça c'est intéressant à savoir, juste avant midi, est arrivé un monsieur, probablement hindou, que je ne connais pas du tout. Il a enlevé son chapeau, il a enlevé ses souliers, comme en font les musulmans dans les mosquées, et il a fait des prosternations devant la porte avant d'entrer. C'est assez étonnant, et certainement pas catholique, n'est-ce pas? De quelle religion, je ne sais pas, je n'ai pas parlé avec lui. Mais c'est impressionnant, donc il comprend aussi que c'est un lieu de prière.
On va peut-être sortir, parce qu'il y a une dame qui est...
Oui, oui, c'est...
Oui, je ne sais pas si elle est en prière ou en lecture.
Elle lit des prières.
Elle lit des prières, oui. Peut-être qu'on sort de la grotte.
Alors, je dirais que c'est un lieu sacré pour toute la région. Pour toute la région, et les gens sont très attachés à Longeborgne. Alors, ils aiment venir pour y trouver la paix, y trouver la lumière, y trouver la réponse à leurs interrogations quand c'est... des décisions à prendre, mais beaucoup de maladies qui viennent prier pour les malades, beaucoup pour les ménages qui ne marchent pas, enfin, des choses comme ça. Alors là, moi, je suis confident, souvent, mais que serviteur.
Vacarme.
Je ne suis pas un gourou qui commande, vous devez faire ceci, vous devez faire ça, non, pas du tout. Et si on me pose la question, j'essaie de voir avec la personne qu'est-ce que Dieu veut d'elle. Ça, c'est un critère pour moi. Qu'est-ce que Dieu veut lui dire? Pas à moi, mais qu'est-ce que Dieu veut lui dire?
Et vous, qu'en pensez-vous? Des lieux peuvent-ils être chargés d'énergie particulière? Votre avis nous intéresse au 058 236 236 0. Appelez-nous pour nous dire votre expérience, votre enthousiasme ou votre agacement face à ces concepts. 058 236 236 0.
Vacarme, Marc Jules, Véronique Marty, Marie Némon, Stéphanie Coudray, Valérie Kernen, Bruno Seriba.
Demain, nous irons dans la forêt du Devant. Attention, on dit qu'elle est enchantée.
Donc les nains, ce serait l'intelligence de la pierre. Les elfes, ce serait l'intelligence de l'air, de l'eau ou du feu, parce qu'il peut être de la terre, il peut être dans plein de manifestations différentes. Les trolls, ce serait les manifestations des plus grosses pierres. C'est l'intelligence vraiment de la matière selon la façon dont elle est manifestée sur Terre.
Dans un instant, on retrouve les décodeurs à Fuilly pour parler du spectacle des vilains bonshommes qui raconte par le théâtre, la danse et la chanson l'épopée des émigrants valaisans vers l'Argentine au milieu du 19e siècle. Et on se retrouve demain à 11h.